Music Box.
Patrice Duhamel et Jacques Santamaria qui publient aux éditions Plomb l'Élysée, histoire, secret, mystère. Alors l'Élysée joue la transparence avec vous finalement. Vous êtes plongé dans toute l'histoire de ce palais et de tout ce qu'il y avait comme mystère secret qui le recélait.
Bah, on force un petit peu, nous, la transparence, parce que c'est pas une donnée évidente du palais que de rendre tout transparent. Il y a quand même beaucoup de mystères qui demeurent. Il y a beaucoup de secrets à protéger, et c'est normal, hein, pour des questions de sécurité, normalement. Mais il y a aussi des choses qui, aujourd'hui, doivent se savoir, parce qu'on ne réagit plus comme il y a 20, 30, 40 ou 50 ans. Et c'est pour ça qu'on a repris notre loupe pour aller enquêter à l'Élysée et ajouter beaucoup de choses par rapport à la précédente édition de ce livre.
Justement, ces mystères qui sont des mystères, ces secrets qui sont des secrets, quels sont ces nouveaux secrets ?
Les secrets presque hebdomadaires à l'Élysée, c'est ce qui se passe dans les conseils des ministres, où on donne quelques exemples. Par exemple, des ministres qui s'échangent des tweets rageurs et vengeurs pendant le conseil, parce qu'ils sont en désaccord sur tel ou tel sujet. Les secrets, c'est les passations de pouvoir entre les présidents. Il y en aura une bientôt. Et là aussi, on donne quelques indications nouvelles sur la passation de pouvoir, par exemple, entre Sarkozy et Hollande ou entre Giscard et Mitterrand. Les secrets, c'est les maladies des présidents. Parce qu'on en est au 7e président, il y en a 4 qui ont été très malades. Dans l'ordre chronologique, De Gaulle, Pompidou, Mitterrand et Chirac quand il a fait son AVC, etc. etc. Mais il y en a qui demeurent. Et puis il y a des secrets historiques qui sont restés secrets pendant un bon moment parce que, par exemple, c'était la censure pendant la Première Guerre mondiale et quand la femme de Raymond Poincaré s'est fait prendre dans les bras dans le parc de l'Élysée par un chimpanzé qui a commencé à le faire grimper sur un arbre et que les gardes républicains ont été obligés de venir pour la libérer et la protéger, c'est un secret qui, à ce moment-là, n'a pas été divulgué parce qu'il y avait la censure de guerre et que c'était l'été de 1917 et que ça n'aurait pas fait très sérieux quand même pendant la guerre, quand les hommes étaient dans les tranchées, de voir que la femme du président se promenait dans le parc avec un chimpanzé. En tout bien, tout honneur, bien entendu.
Alors, bien sûr, ça me fait penser à Brassens. Bien sûr, il y a aussi des choses...
Ou à King Kong.
Bien sûr qu'il y a des choses aussi plus graves parce qu'il y a eu des morts à l'Élysée. Je pense à l'affaire Gros-Rouve, par exemple.
Oui, alors là, c'est le seul suicide.
C'est encore un mystère. Oui.
Mais qui est quand même un mystère, parce que rien n'a été véritablement éclairci. C'est présenté, et on a peut-être tout lieu de le croire, comme le seul suicide à l'Élysée à ce jour, dans l'enceinte du palais. Mais il y a aussi les présidents qui sont morts en cours de mandat, assassinés. Il y en a quand même eu deux. Il y a eu... D'abord Sadi Carnot, et ensuite il y a eu en 1932 Paul Doumer. Et ça reste aussi des mystères, parce que aujourd'hui le palais est extrêmement protégé et le président est extrêmement protégé, mais enfin il l'était aussi à l'époque. Ça n'a pas empêché que des actes terroristes, c'est la dénomination aujourd'hui, et elle est réelle, elle s'applique à ces cas de figure, que des actes terroristes ôtent la vie à des présidents de la République française. Tout ça, ce sont encore des mystères, parce que tout n'est pas éclairci. Alors, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on arrive à savoir des choses, et puis, avec Patrice, on a fait quand même pas mal de recherches, on arrive à en savoir un peu plus, mais... Derrière ces murs qui ont 300 ans, il demeure encore des secrets, des mystères qu'on finira peut-être par connaître un jour, mais ce n'est pas encore le cas.
Patrice Duhamel, est-ce qu'il y a eu des présidents plus tentés par le secret que d'autres ?
Le général de Gaulle, il vivait dans le secret. Le 17 juin 1940, quand il est allé saluer d'abord sa mère et puis ensuite sa femme, et ses enfants à Carantec, en Bretagne. Il n'a dit ni à sa mère ni à sa femme qu'il allait partir pour Londres le soir même. Je ne sais plus si c'est le 16 ou le 17.
Il était en Bretagne le 15.
Le 15.
Voilà.
quand il est revenu au pouvoir, ça, les tractations avec le dernier président de la 4ème République, René Coty, ont été longtemps secrets. Quand il a quitté l'Élysée pour Baden-Baden en grand secret, tout près d'ici, à l'héliport, à quelques centaines de mètres d'ici, à Issy-les-Moulineaux, pour partir dans une direction qui a été d'abord inconnue. On a su ensuite que c'était à Baden-Baden pour voir Massu, le patron des troupes françaises en Allemagne. C'était un secret et c'est encore un mystère, parce qu'au jour d'aujourd'hui, même si on a une petite idée qu'on donne dans le livre, on ne sait pas officiellement s'il est parti sur une opération volontaire de dramatisation ou s'il était tellement déprimé qu'il est parti avec sa femme, l'argenterie et les enfants qui suivaient derrière.
Mais il y a, une chose, c'est qu'il faut voir que la surprise, l'inattendu et donc le secret en amont, ça a toujours fait partie de la politique et du général de Gaulle, toujours. Effectivement depuis 1940, mais jusqu'en 69, il a théorisé ça dans plusieurs de ses ouvrages. Un effet de surprise vaut toutes les théories, toutes les stratégies politiques pour lui. Et puis il y a quand même un deuxième président qui incarne le secret et le mystère par excellence, c'est François Mitterrand,
encore un point commun entre les deux.
Oui, encore un point commun entre les deux, mais comme par hasard, vous remarquerez que De Gaulle et Mitterrand sont les deux grands écrivains qui ont été présidents de la République aussi. Ce n'est pas des hasards, tout ça. On constate que De Gaulle et Mitterrand, c'est eux qui écrivaient ce qu'ils avaient à écrire, ce qu'ils avaient à dire. Ils n'avaient pas des plumes. C'est eux. Donc il y a quelque chose, oui, qui fait que c'était des solitaires, mais Mitterrand comme De Gaulle ont théorisé aussi la solitude du pouvoir, solitude nécessaire et hauteur nécessaire. Et c'est intéressant de voir à quel point ça a changé par la suite.
Le secret est nécessaire à l'application du pouvoir.
Ah oui, oui, oui. Et encore plus quand on est président de la République, parce qu'il y a un point commun entre les 7 présidents de la 5ème République dont on parle dans ce livre. C'est l'un des rares points communs d'ailleurs, parce que ce sont des personnalités tout à fait différentes. C'est la solitude, c'est-à-dire que dans la plupart de leurs décisions, ce sont des hommes seuls. Le jour où Georges Pompidou s'est installé à l'Élysée, il a dîné avec sa femme et son fils le soir, et à la fin du dîner, il a pris son fils à part et il lui a dit, son fils s'appelle Alain, il lui a dit: Alain, faut que tu saches, à partir de ce soir, à partir d'aujourd'hui, je suis un homme seul. C'est la solitude de l'homme qui jusqu'à Mitterrand avait le droit de grâce pour les condamner à mort, ou d'autres, bon, enfin notamment pour les condamner à mort. C'est la solitude de l'homme qui est susceptible d'appuyer sur le bouton nucléaire. C'est la solitude de l'homme qui, comme François Hollande, décide tout seul à quel moment les forces spéciales vont attaquer les frères Kouachi à côté de Paris ou Koulibaly dans l'hypercachère de la porte de Vincennes, etc., etc., etc. Le secret, ça fait partie, alors bien entendu encore plus pour le général de Gaulle, qui vivait dans le secret depuis son adolescence et depuis qu'il était encore plus dans l'armée. Mais le secret, ça fait partie de l'exercice du pouvoir. Et puis l'Élysée est un lieu qui, par nature, est secret. Il s'est quand même passé des choses insensées. Napoléon III qui fait creuser un tunnel sous la rue adjacente du palais de l'Élysée pour aller directement retrouver sa maîtresse dans son hôtel particulier.
Et le même Napoléon III, alors là, qui lui s'est organisé avec son demi-frère Luc de Morny à l'Élysée, il s'est organisé un secret qui est le coup d'État. Le coup d'État de 1851 se conçoit, s'imagine, se prépare entièrement à l'Élysée. Et là, il faut le garder, le secret. Et ça se passe dans le salon d'argent. Tout le complot est monté à l'Élysée et la dernière touche est donnée dans le salon d'argent. C'est une maison, l'Élysée, on essaye de le démontrer assez facilement d'ailleurs, qui prédispose au secret. Ne serait-ce que l'organisation des lieux. La topologie, c'est quelque chose de secret. Il n'y a pas de vastes couloirs qui s'ouvrent. Ce sont des recoins. Ce sont de très belles pièces, de très beaux salons, mais ce sont des recoins partout. Tout est organisé pour maintenir, pour déjà préparer et maintenir les secrets. Cette maison est faite comme ça.
Music Box.